Bonsoir. L'exécution de la loi des finances 2021 en RDC a été marquée par l'aggravation des pratiques de corruption, l'affaiblissement des institutions à caractère social et l'incapacité du gouvernement à mettre en œuvre les politiques publiques. C'est ce que conclut l'Observatoire de la dépense publique des PONSIGLE dans son rapport sur la gestion des finances publiques. Ce rapport a été publié le week-end dernier à Kinshasa. Et dans ce rapport, l'ODEP rapporte le dépassement budgétaire à la présidence de la République, à la primature au Parlement, ainsi que les indices de corruption dans certains services publics. Quelle analyse faites-vous des conclusions contenues dans ce rapport? Nous en parlons ce soir avec le professeur Florimond Mouteba. Il est président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle. Professeur Florimond Mouteba, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Professeur Alphonse Maïndo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne, Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur Alphonse Maïndo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Godin Poï qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il est président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, fiscaliste. Il est aussi professeur d'université, mais également cadre de l'Union sacrée de la nation. Vos réactions, nous les avons reçues. C'est notamment celle de Samy Divine qui dit ceci: depuis que toutes ces organisations non gouvernementales qui, au nom de la démocratie, ont commencé à dénoncer les mal de l'État, qu'est-ce qui a changé dans ce pays? Est-ce que l'ODEP peut d'abord nous expliquer comment cette ONG parvient à obtenir toutes ces informations pour plus de fiabilité? Jean-Luc Kankou depuis Chikapa, ceci prouve qu'il n'y a pas encore eu de changement dans ce pays. Le système que le président voulait déboulonner existe toujours. Le président doit ouvrir l'œil et le banc s'il tient au changement tant voulu. Mbandaka, dans la province de l'Équateur, vous nous suivez sous la 103.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, l'exécution de la loi des finances 2021 en RDC a été marquée par l'aggravation des pratiques de corruption, l'affaiblissement des institutions à caractère social et l'incapacité du gouvernement à mettre en œuvre les politiques publiques. C'est ce qu'a déclaré vendredi 7 janvier 2022 à Kinshasa le président de l'Observatoire de la dépense publique, ODEP, lors de la publication de son rapport sur la gestion des finances publiques. Pour Florimond Mouteba, 80% des décaissements ont concerné les rémunérations en lieu et place des investissements. Pendant que les institutions phares ont vu leurs dépenses exploser, les dépenses sociales visant principalement l'amélioration des conditions sociales de la population ont été faibles, a dit le président de l'ODEP. On écoute le professeur Florimond Mouteba dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Le rapport que nous avons l'honneur de vous présenter à ce jour représente la situation de janvier à septembre 2021. À ce titre, le contexte de l'exécution de la loi de finances 2021 a été marqué par l'aggravation des pratiques de corruption. Le Parlement, temple de la démocratie, a été transformé en temple de la corruption. Incapacité du gouvernement à mettre en œuvre les politiques publiques suite à son dédoublement par la présidence de la République, où certains conseillers ont assuré les fonctions des ministres sans aucun fondement juridique. Ces dépenses en dépassement sont justifiées par les recours à de mauvaises pratiques de gestion. La présidente de la République a augmenté le nombre de son personnel de 455 en 2018 à 1018 en 2021. Les bureaux de l'Assemblée nationale rémunèrent 2756 membres du cabinet, hormis les 500 députés. Les bureaux du Sénat rémunèrent 880 membres des cabinets, hormis les 109 sénateurs. La primature paye 606 personnels politiques affectés dans les cabinets du Premier ministre. Des inégalités sociales sont également perceptibles dans la répartition des ressources tirées par l'État. Les métiers les plus marginalisés restent l'enseignement.
Professeur Florimond Mouteba, je rappelle que vous êtes président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle, loi des finances 2021, exécution plutôt de la loi des finances 2021 a été marquée par l'aggravation des pratiques de corruption, l'affaiblissement des institutions à caractère social, l'incapacité du gouvernement à mettre en œuvre les politiques publiques, le Parlement transformé en temple de corruption. Professeur Florimond Mouteba, quels sont les éléments sur lesquels vous vous basez pour faire ce genre d'affirmations?
Merci madame pour votre question et de m'associer à cette émission. D'abord, je voudrais rappeler donc à l'opinion que l'objectif du travail que nous faisons, c'est de promouvoir la gouvernance par l'amélioration de la transparence, de la rentabilité, de l'efficience et de l'efficacité, surtout dans la gestion des finances publiques. Ça, c'est une première chose qu'on doit retenir. Nous ne le faisons pas contre quelqu'un. Non, nous le faisons dans l'intérêt de notre pays. Parce que comme vous le savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand il est bien géré, nous pouvons faire face à de nombreux défis, notamment la guerre à l'Est, la grande pauvreté. Vous savez qu'aujourd'hui, l'indice de développement humain des Nations Unies, qui est publié régulièrement, place la RDC au 175e rang sur 189 pays. Tandis que l'indice donc de transparence par rapport à la corruption, nous sommes parmi les 10 pays les plus corrompus au monde. Madame, vous comprenez que avec ça, on ne peut pas ne pas réagir en tant que citoyen, parce que la Constitution nous autorise à le faire, comme disait un des intervenants tout à l'heure. Sur quelle base, vous demandez, nous faisons ces affirmations? Madame, je voudrais d'abord rappeler ce qu'a été la volonté du gouvernement avant même qu'on entre dans l'exécution donc de la loi de finances 2021. Le gouvernement avait pris l'engagement qu'une attention particulière sera mise sur la qualité de la dépense. C'est l'exécution de la dépense par la procédure urgente s'effectuera dans le strict respect du manuel de procédure et du circuit de la dépense. Par rapport évidemment à la situation sociale difficile qu'on a vécue avec la Covid, et le gouvernement avait effectivement encore décidé de se pencher prioritairement sur les dépenses sociales. Vous voyez là les PST, les investissements porteurs de croissance dans le secteur agricole, le secteur du développement rural, l'industrie, la télécommunication, les infrastructures, les subventions données au ménage. Mais madame, qu'est-ce que nous avons donc constaté? Nous avons constaté globalement cette difficulté-là, donc d'améliorer la qualité de la dépense. Vous allez prendre par exemple aujourd'hui, le gouvernement prétend avoir porté à 5% les dépenses publiques dans les domaines des investissements, mais nous constatons, d'après les différents états de suivi budgétaire postés sur le site du ministère du budget, qu'on est à 0,1%. Les dépenses publiques en ce qui concerne les investissements. Donc vous voyez que la difficulté d'améliorer la qualité de la dépense reste, n'est-ce pas? Les rémunérations et le fonctionnement des institutions restent la priorité, hein, parce qu'aujourd'hui, et quand vous regardez les différentes institutions, vous constaterez que la présidence de la République, la primature, l'Assemblée nationale, le Sénat, vous allez constater que là, effectivement, les dépenses, les dépassements des dépenses continuent.
Professeur Florimond Mouteba, vous dites que l'exécution de la loi des finances a été marquée par l'aggravation des pratiques de corruption. Est-ce que vous avez des exemples concrets, des preuves pour affirmer qu'il y a eu aggravation des pratiques de corruption?
Le projet Tilé Genou, par exemple. Vous voyez un projet qui est d'abord hors loi budgétaire. Ce projet, c'est l'OVD qui en a eu la charge et qui a donné un marché de 138 472 350 000 $ à une entreprise chinoise qui s'appelle Grexel. Et un tel montant n'a pas été soumis à la concurrence. Ça a été marché gré à gré. Et donc, vous constatez d'ailleurs les dégâts vous-même lorsque vous donnez un marché de gré à gré, la corruption n'est pas loin, elle est juste derrière. Et vous avez vu vous-même lorsque le président de la République était dans l'espace Kassai, quand il a voulu se rendre à Cabinda sur une route qui devait être reconstruite par le projet Tilé Genou, vous avez vu vous-même les désastres. Et lui-même, le président de la République, a appelé à des sanctions. Il a dit qu'il va sanctionner. Vous voyez. Donc, ça c'est un exemple. Je donne un autre exemple. C'est le projet Zéro Trou. 32 millions que l'OVD a attribué à 8 entreprises, d'agré à gré. Et vous allez constater que le sous-bâtiment même, donc de ces passations de marché, est inexistant. Pas de notes de calcul, ni des études de base, pas de cahiers et des plans de construction, pas de calendrier d'exécution des travaux, absence de cahiers des clauses administratives générales et des clauses techniques générales pour la soumission, projet qui ne marche pas sur le budget 2021, donc non approuvé par le ministère du budget. Vous comprenez que ces deux exemples déjà démontrent que la corruption, elle est présente. Donc cela a accompagné complètement l'exécution du budget 2021.
Vous parlez aussi des dépassements qui sont justifiés par le recours à des mauvaises pratiques de gestion.
Mais madame, effectivement, ça veut dire que la loi des finances, la loi relative aux finances publiques, n'a pas du tout été respectée, madame. Elle n'a pas du tout été respectée. Et donc, vous avez, la plupart des institutions dont je parle ont connu presque toutes des dépassements budgétaires. Toutes les grandes institutions. La présidence de la République est à plus de 200 et quelques pourcents. Vous avez... comment dirais-je,
l'Assemblée nationale, vous parlez des 103%, le Sénat 133%, et la primature 131%.
Exactement, madame. Et là, quand vous regardez derrière tout ça, et je vais vous donner encore, il y a aussi d'autres dépenses qui, vraiment, qui n'ont aucun impact sur la vie de la population. Par exemple, dans le budget, vous avez les frais secrets de recherche. 474%, la liste civile du chef de l'État, 102%, les fonds spéciaux d'intervention, 203%, les frais d'installation et d'équipement, 513%, et d'autres prestations, 565%. Parce qu'on dit toujours que nous insistons sur les dépassements des institutions. Mais là, ce ne sont pas des... Ce sont des dépenses parfois qui peuvent passer inaperçues, mais dans lesquelles on est dans le dépassement tel que je viens de vous dire là. Donc, globalement, c'est fait dans le non-respect de la loi relative aux finances publiques. Vous savez, par exemple, il y a un exemple par rapport aux violations de la loi sur les dépenses publiques. Depuis août, selon les statistiques du ministère du Budget, la primature, la présidence et le Sénat ont continué à engager depuis août les dépenses sans disponibilité de crédit, n'est-ce pas? Or, nous savons tous que selon la LOFIP, les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pour être engagées et les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées durant une année. Deuxième cas de violation de la LOFIP, les dépôts tardifs par le gouvernement du projet de loi portant réduction des comptes. La loi de 2020, donc sur l'année 2020. La loi exige que ce soit déposé au plus tard le 15 mai. Donc, en ce moment-là, ça peut laisser à la Cour des comptes le temps de procéder à des vérifications par rapport aux fraudes, au détournement ou même au maquillage des comptes de l'État.
Selon toujours votre rapport, professeur Florimond Mouteba, vous dites que la présidence de la République a augmenté le nombre de son personnel de 450 en 2018 à 1018 en 2021. Le bureau de l'Assemblée nationale rémunère 2556 membres du cabinet, hormis les 500 députés. Le bureau du Sénat rémunère 880 membres du cabinet, hormis les 109 sénateurs. Et la primature paye plus de 600 agents politiques affectés dans les cabinets du Premier ministre. Alors, il y a plusieurs structures qui rejettent quand même les chiffres que vous avancez dans votre rapport, professeur Florimond Mouteba. C'est notamment l'ONG ACAJ et même la Task Force Santé de la présidence qui rejettent vos chiffres.
Merci, madame. D'abord, la question de 600 personnes, 606 personnes à la présidence, je dois vous dire que c'est un petit détail par rapport à notre rapport. Notre rapport, c'est peut-être 0,001% comme information donnée dans notre rapport. Mais néanmoins, je voudrais vous donner quelques chiffres, madame. Dans les états de suivi budgétaire, dans le budget même, déjà les prévisions budgétaires étaient faites sur la base de 606 personnes, n'est-ce pas? 606 personnes. Alors, les budgets votés pour la primature et des 79 milliards de francs congolais. D'abord, je dois vous dire que ce qui a été voté, ces 79 milliards, mais au moment où nous parlons avec vous, les engagements de la primature sont déjà à 127 milliards, n'est-ce pas? Et que les paiements sont déjà à 96 milliards. Ils sont déjà au-delà de... Donc, ceci, vous pouvez les regarder vous-même sur les états de suivi postés le 6 décembre à 11h27, 51 secondes. Donc nous avons pris cette information dans les états de suivi budgétaire du ministère du budget. Maintenant, par rapport au personnel, dans ce budget-là, voté de 78 milliards, le personnel, c'est 54 milliards. Donc c'est le gros de budget voté, c'est 54 milliards. Et au moment où nous parlons, en ce moment où nous parlons avec vous, nous sommes déjà à des engagements par rapport à ce personnel-là de 61 milliards de francs congolais. Paiement, 53 milliards de francs congolais. Donc vous comprenez que les 54 milliards et les 53 qui sont déjà payés, 61 engagés, c'est sur la base de 606 personnes, madame. S'ils disent qu'ils ont, ils n'ont que 202, qu'ils nous disent alors, les fonds pour les 400 autres sont passés où?
La réalisation me signale que le professeur Godin Poyi est en ligne. Professeur Godin Poyi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes président de l'Assemblée provinciale de la ville province de Kinshasa, fiscaliste et professeur d'université, mais également cadre de l'Union sacrée de la nation. Vous avez suivi, comme tout le monde, j'imagine, la publication du rapport de l'ODEP qui dénonce un peu l'aggravation des pratiques de corruption, l'affaiblissement des institutions à caractère social et l'incapacité du gouvernement à mettre en œuvre les politiques publiques. Comment vous analysez les conclusions contenues dans ce rapport?
Merci, madame. Je salue d'abord le prof Floribert Kiaba, un travail de qualité. Et j'interviens ici plus en tant que professeur et non qu'en tant que politique. J'ai suivi religieusement l'intervention de mon co-débatteur, que je respecte beaucoup. Mais si j'ai accepté de prendre part à ce débat, c'est parce que nous devons nous battre pour que notre pays aille de l'avant. Je suis d'accord que nous devons tous combattre la corruption. Et je le fais depuis plusieurs années dans ce pays. Les débats ne vont pas se poser autour de cela, mais je voudrais...
Mais malheureusement, la corruption continue malgré le combat que mène le chef de l'État contre ce fléau. On a l'impression que ça s'accentue.
Oui, il y a l'impression que ça donne, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'accompagnent pas le chef de l'État. Et là, je suis d'accord avec les profs. C'est pour cela que la justice est en train de traquer tous ceux qui posent des actes contre les game. Là, je suis d'accord avec les profs et nous devons tous nous organiser pour faire corps avec la République et combattre ces antivaleurs. Mais j'ai quand même une préoccupation, c'est par rapport au dépassement budgétaire. Le prof Floribert, il dit que la loi de finances a été violée et il a cité même l'une des dispositions en disant que on ne peut pas engager des crédits au-delà des prévisions. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il se réfère à l'article 129. Mais moi-même, je suis contre les dépassements budgétaires, mais souffrez, madame, que je puisse expliquer un peu comment cette loi de finances a été votée au niveau du Parlement. Donc, au stade actuel, moi-même, je suis contre les dépassements budgétaires comme mon co-débatteur. Mais au stade actuel, les dépassements budgétaires n'est érigé ni en infraction et encore moins en faute de gestion comme on est en train de l'alléguer. En fait, c'est l'article 38 d'abord qui interdit les dépassements budgétaires à ce qui concerne les crédits limitatifs. Et ensuite, il y a l'article 29 de la LOFIP qui revient là-dessus et interdit d'engager des crédits au-delà des prévisions. Mais je voulais demander à mon co-débatteur, dont je salue l'intelligence et l'amour du pays, il ne veut pas s'arrêter à ne lire que ces deux dispositions-là. En l'occurrence, l'article 38 et l'article 129.
Professeur, excusez-moi de vous interrompre. Vous dites que les dépassements budgétaires n'est pas une infraction, mais est-ce que on peut dire que c'est un signe de mauvaise gestion?
Nous ne sommes pas en philosophie, madame. Nous sommes ici en matière de finances publiques. Les législateurs lui-même définit à l'article 129 ce qu'on entend par faute de gestion. Donc, dans la même LOFIP, la LOFIP de la RDC, pour laquelle je vais qu'il y ait des réformes immédiatement, dispose de 235 articles. Lorsque vous lisez les dispositions combinées des articles 230 et 232, il est dit clairement que les articles 38 et les articles 38 et 129 qu'on évoque pour ériger les dépassements budgétaires en faute de gestion, ces articles ont été postposés par les législateurs. Les premiers moratoires devaient s'achever en 2018 et le législateur lui-même a encore prolongé ces délais jusqu'en 2024. Madame, l'état de droit veut dire que c'est le seul état qui n'obéit qu'à la loi. Lorsque la loi n'a pas érigé une disposition en infraction en faute de gestion, il ne nous appartient pas, nous en tant que citoyens, de créer des infractions qui n'existent pas, sinon alors nous sommes en train de marcher sur l'état de droit. Mais n'oublions pas que nous sommes dans un état de droit. Le fondement de l'état de droit, c'est la loi. Lorsque la loi est muette, lorsque la loi a été mise en veilleuse, nous devons apprendre à nous taire.
On parle des dépassements budgétaires, malheureusement, qui ne profitent pas à la population, mais plutôt à un groupe d'individus, professeur Godempoli.
S'il vous plaît, madame, moi je suis, vous m'appelez professeur, je veux que nous puissions étayer. Nous ne sommes pas en philosophie, nous ne sommes pas en matière, nous sommes en matière de finances publiques. Je vous dis que dès lors que le législateur n'a pas érigé ça en faute, il faut commencer par réactiver ces dispositions qui ont été mises en veilleuse. Et je vous explique pourquoi, dans tous les pays du monde, les dépassements budgétaires sont autorisés. Les lois de finances que nous appliquons ici à la République démocratique du Congo nous sont imposées par la communauté internationale. Quand on a amené ces réformes en 2011, on avait constaté que l'environnement de la République démocratique du Congo ne lui permettait pas de mettre en œuvre immédiatement ces textes. Pourquoi on avait mis en veille ces dispositions? Nous avions une monnaie qui n'est pas stable. Lorsque vous n'avez pas une monnaie stable et que vous érigez déjà les dépassements budgétaires en faute de gestion, c'est que vous n'allez pas fonctionner en tant qu'État. Qu'est-ce qui se passe, madame? Le budget est élaboré en francs, en monnaie locale. Lorsque vous avez, par exemple, le crédit de 2 milliards et que du fait de l'inflation, les prix des biens que vous devez acheter galopent, à ce moment-là, vous êtes obligé d'avoir des crédits supplémentaires. C'est ça l'intelligence de ces lois qui viennent de l'OCDE. Et je sais, le souci, c'est d'avoir un état sans dépassement budgétaire, mais de préalable, il faut avoir notamment une monnaie stable. Donc, en précisant cela, je ne dis pas que je suis pour le dépassement budgétaire, mais j'explique, et cette situation ne s'observe pas qu'en République démocratique du Congo. Je suis d'accord avec mon co-débatteur que ça ne devait pas être la règle, ça devait être l'exception. Mais il faut que la population retienne une fois pour toutes. Tous ceux qui vous parlent d'infractions relatives au dépassement budgétaire, tous ceux qui vous parlent de la faute de gestion, il n'y a personne qui peut sortir une disposition qui érige cela en faute de gestion. Donc, si nous voulons un état de droit, apprenons à respecter les lois de notre pays, madame. Donc, au stade actuel, tout en appréciant le travail qu'abat l'ODEP, moi, je mène ce combat depuis plus de 20 ans. Je suis dans l'obligation, au moins en tant que scientifique, de dire la vérité qu'au stade actuel, c'est le dépassement budgétaire n'est ni une infraction, encore moins une faute de gestion. Mais ce que nous demandons au gouvernement, c'est que ça doit être une exception et non la règle.
Professeur Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Professeur, votre lecture des conclusions contenu dans le rapport de l'ODEP qui parle de l'exécution de la loi des finances 2021 en RDC marquée par l'aggravation des pratiques de corruption. L'Assemblée nationale, temple de la démocratie, transformée en temple de corruption. Votre analyse.
Bien, merci beaucoup madame. Je salue d'abord mes deux collègues Mouteba et l'autre. Je voudrais d'abord féliciter aussi les rapports parce qu'il est ces rapports, ils tombent à pied nommé pour confirmer, si vous voulez, ou conforter ce que tout le monde sait déjà, qui apparaît comme un secret des polichinelles. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'orthodoxie financière et budgétaire. Et je sais bien que c'est difficile de rester toujours dans les budgets. Il y a toujours des dépassements. Alors, quelles que soient toutes les puissances que je connais, ont toujours eu des dépassements. Mais il y a des règles en termes de dépassement, il y a des limites à ne pas dépasser. C'est ce qu'on déplore. Mais quand on fait l'analyse maintenant de ce qui est dépassé, même si on les convertit en dollars, on constate qu'il y a un certain nombre d'institutions et des lignes budgétaires qui sont donc, si vous voulez, qui connaissent un dépassement extraordinaire. C'est quoi? Ce sont les institutions politiques et sécuritaires. Ce sont donc les lignes politiques et sécuritaires. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est dans une logique de préservation et de conservation du pouvoir. Ce qui nous ramène à examiner la nature du régime politique, ce qu'on appelle un régime néo-patrimonial, d'après Samuel Eisenstadt. Donc c'est un régime qui cherche à retenir des clients, des soutiens politiques et autres pour résister, pour exister. Et donc il faut récompenser les clients, les alliés, pour pouvoir garder le pouvoir. Et donc si on ne fait pas ça, ben, on va tomber. Et c'est pour ça que vous allez voir, on a voulu rémunérer les clients politiques qui sont là-bas, parce qu'on ne peut pas survivre sans eux. Et donc les autres postes budgétaires, les autres institutions qui ne peuvent pas menacer l'existence du pouvoir, qui ne peuvent pas menacer l'exercice du pouvoir, on les oublie. Et donc on se trouve dans une situation où les performances en ce qui concerne les dépenses, les œuvres sociales comme l'éducation, la santé, elles restent en souffle. Voilà, c'est, si vous voulez, c'est ça le vrai problème que l'on a ici avec ça. Et donc, quand on est dans les, et c'est ce que dit d'ailleurs Leca et Schmein. Schmein, ils disent que le clientélisme qui est donc constitutif du néopatrimonialisme, ça sert à la perpétuation de la domination. Et vous, ça permet et ça empêche évidemment de moderniser les pays parce que on dépense beaucoup plus d'argent à entretenir les clients politiques. Donc les députés qu'on doit garder pour avoir l'union sacrée, avoir la majorité, les membres des cabinets politiques. Mais or, actuellement, qu'est-ce qu'on observe? Les ressources du Congo sont limitées. Les ressources étant limitées, alors le peu qu'il y a, ça va retenir pour l'entretien du pouvoir et donc les autres secteurs sont donc en souffrance.
Professeur Alphonse Mahindo, le Premier ministre avait promis de réduire le train de vie des institutions. Dans ce rapport de l'ODEP, cette ONG constate que le Premier ministre a échoué. Il n'a pas réussi à réduire le train de vie des institutions. Est-ce que cela peut s'expliquer?
Ben, évidemment, c'est ce que je disais tantôt. Ce type de promesse, on ne peut y croire que si on est naïf. Et ça ne vaut que pour ceux qui y croient. Parce que quand on regarde la nature du régime, le mode de fonctionnement, on ne peut pas réduire les trains de vie de ces institutions-là. Parce que tous les gens qui vous soutiennent, vous avez besoin de leur donner de l'argent, de leur donner du travail. Et quand vous ajoutez à ça, si vous voulez, c'est un échec, c'est pour ça que c'est un échec, mais c'était prévisible. Et vous ajoutez à ça également un certain nombre de passions ou des fantasmes du prince qui veut participer à toutes les rencontres internationales, à des missions, qui veut voyager et qui veut faire des missions, tout ça. Tout ça, ça a un coût. Et quand, autour, dans son cabinet, les gens aussi veulent voyager et on fait des missions avec un personnel pléthorique, tout ça, ça saigne. Mais en réalité, ça obéit à une logique. La logique, c'est quoi? C'est de fidéliser les clients politiques pour continuer à avoir leur soutien pour que les régimes demeurent, les régimes puissent perdurer. Alors, il y a aussi des ralliements, voyez-vous, ou si vous voulez, en termes un peu plus moins pudiques, c'est des débauchages. Et tous ces nouveaux acteurs que l'on récupère comme de nouveaux soutiens, ils ont besoin également d'être rétribués. Et tout ça, ça a un coût. Et c'est pour ça qu'on a constaté que les postes politiques et les lignes politiques et sécuritaires sont gonflés. Fonds secrets de recherche et tout ça, mais c'est justement ça.
On va prendre ces auditeurs qui sont très nombreux à nous appeler sur notre standard pour donner aussi leur point de vue sur le sujet de ce soir. Professeur Florimond Mouteba, on va prendre pour vous cet auditeur qui nous appelle depuis Kinshasa.
Espérance Jardel Iluma Bayamba depuis Kinshasa. L'Observatoire des dépenses publiques ODEP est une structure chargée de révéler que les dépassements budgétaires sont toutefois aussi appréciés les bons actes des institutions ciblées, moins encore donner des suggestions et propositions objectives. Cette façon-là de faire les choses nous laisse croire que l'ODEP est officiellement une structure de révélation, mais officieusement une structure politique.
Professeur Florimond.
Madame, ça me fait rire. Bon, d'abord, je voudrais, avant de lui répondre à lui, essayer un peu de dire deux mots au professeur Ngoï. Est-ce que ça veut dire que le premier président de la Cour des comptes et les ministres du budget qui ont déclaré les dépassements budgétaires comme étant des fautes de gestion ne sont pas dans le bon. Ça, c'est vraiment, j'ai l'impression, alors que vous êtes un scientifique, mais j'ai l'impression que vous tenez un discours plutôt politique. Vous voulez défendre ceux qui font ces dépassements, parce qu'étant parmi les champions, on les connaît. Et alors, donc, je pense que c'est un peu ça, parce que où est-ce que vous mettez les dégâts que cause l'indiscipline budgétaire? Est-ce que vous ne voyez pas que lorsqu'il y a mauvaise prévision budgétaire, il y a un problème de crédibilité du budget? C'est-à-dire qu'il y a, lorsque on prend, prenons par exemple, pas en franc congolais, prenons par exemple cette année ici, vous savez que le budget prévu pour la présidence était de 159 millions de dollars. Il est déjà à plus de 300 millions. Alors vous voyez que le plus que lui il prend, c'est ça qui a des conséquences néfastes sur les fonctionnements des secteurs sociaux de base, comme l'agriculture, comme la santé, l'éducation, etc. Nous avons un gap d'un million et quelques, 1 milliard et quelques pour faire la gratuité. Et donc, revenez un peu aux scientifiques que vous êtes et laissez les politiciens, je sais que vous êtes aussi dans la politique, faire des bêtises comme ils sont en train de faire, mais ce n'est pas bon pour nous. Alors, je reviens à notre ami. J'aimerais qu'il prenne le rapport de l'ONEP, parce que là aussi, s'il vous plaît, ne restons pas sur les dépassements, parce que le rapport est vaste. Dans ce rapport, par exemple, vous avez toute une série de plaidoyers qui sont faits en faveur du contrôle, de tous les contrôles. Vous avez toute une liste de recommandations. Ça, c'est pour l'auditeur. Il y a plein de recommandations que nous avons faites depuis plusieurs années et où nous mentionnons qu'est-ce qui a été pris en compte par le gouvernement et qu'est-ce qui n'a pas été pris. Et quand vous regardez le bilan, vous verrez qu'ils ont pris en compte peut-être 10 ou 20%. Dans ces rapports, il y a même des recommandations sur les voies de développement les meilleures à prendre. C'est-à-dire, entre autres, mettre fin au modèle qui consiste à dire nous allons chercher le développement à l'extérieur. Et d'ailleurs, le président de la République vient de l'expérimenter en allant au Kassai 3 ans après faire un diagnostic qu'il aurait pu faire il y a 3 ans et se rendre compte qu'aujourd'hui, enfin, si on comprend quand même que le développement doit être endogène et qu'il doit être fondé sur le peuple comme moteur, acteur et bénéficiaire du développement, c'est déjà pas mal, même 3 ans après ce rapport.
Professeur Godempoi, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu.
Soyez pour moi, je vous appelle de Bukavu aussi, ce qu'il vaut. Il a constaté que les paroles des dirigeants actuels et leurs faits sont diamétralement opposés. Et ce genre de dépassement ne faut qu'assombrir et frustrer les maigres espoirs qui nous restaient. Les dirigeants prennent leur positionnement d'abord, car le positionnement constaté, que ce soit la présidence où on constate de nouvelles structures et nouvelles nominations chaque soirée, et où à l'Assemblée nationale où on constate des achats de choses et cadeaux aux députés non budgétisés, ne servent nullement à la population. Et malheureusement, l'institution comme l'IGF est bien pire politique qu'une inspection, car soutenant ces délinquances budgétaires, d'où la Cour des comptes serait à rétablir en moyens humains et financiers pour sanctionner les dirigeants.
Professeur Godempoi, que pensez-vous de la réaction de cet auditeur qui nous a appelé depuis Bukavu?
Merci beaucoup, madame. Je remercie les compatriotes de Bukavu. Je crois que il est dans les bons, mais les débats ici, vous avez suivi que tous mes co-débatteurs sont restés évasifs. Personne n'a sorti une disposition de la loi pour qui dit que le dépassement budgétaire est une faute de gestion ou une infraction. Je suis resté scientifique. Personne ne te sortira cette disposition, madame. Lorsque les collègues Floribert Muteba, dont j'apprécie la sagacité, il dit qu'il y a une telle institution qui a dit que le dépassement c'était une faute de gestion, mais je voudrais lui rappeler que personne n'avait concouru pour être là où ils sont. Moi, je suis dans l'enseignement depuis environ 30 ans, je ne fais que les finances publiques, et dans ce pays et ailleurs. Je l'ai dit avec beaucoup d'autorité et je demande d'ailleurs au gouvernement d'interpeller ces autorités-là parce que c'est un discours contre le gouvernement. Moi, je vous dis.
Mais même s'il n'y a pas de disposition,
s'il vous plaît,
professeur Godempoi.
Si vous pouvez m'accorder 2 minutes. J'ai dit moi-même, je suis contre les dépassements budgétaires. Mais dire que les dépassements budgétaires est une faute des gens en RDC, j'ai dit c'est faux et archi-faux. La loi a postposé, a mis en veillesse. Et l'article 38 et l'article 129, c'est ça le débat.
j'en connais la philosophie. Si les gens doivent le savoir que la LOFIP de 2011 fait suite au retour de la Banque mondiale et du Fonds monétaire en RDC, nous sommes en 2001. C'est le Fonds monétaire, donc la communauté internationale, s'étant rendu compte que nous étions un État fragile, il avait demandé qu'il y ait des dispositions qu'on ne pouvait pas appliquer à l'instant. Donc, je suis resté scientifique, que tous ceux qui disent qu'il y a c'est la faute des gestions là, vous sortez la moindre disposition légale, elle n'existe pas. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, moi-même, je suis contre le département militaire, mais je vous dis qu'aujourd'hui, la gouvernance moderne veut qu'il y ait un trait d'union entre les rigidités du droit et l'efficacité du management. Dans des pays fragiles, madame, je peux t'envoyer les LOFIP de tous les 54 États africains. On a toujours laissé une marge de manœuvre qui concerne les dépassements budgétaires. Mais là où je suis d'accord avec l'ODEP, donc il faut que les gens retiennent que tous ceux qui disent que cela a été érigé en faute de gestion, c'est faux et archi-faux, il n'y a aucune disposition légale qui l'instaure.
Professeur Maïnd, on va prendre aussi pour vous rapidement cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Chikobasa, je vous appelle ici à Kinshasa. Le rapport de l'ODEP n'a fait que dire qu'il faut que les contribuables congolais ne fait que murmurer chaque jour ici. Dans un pays sérieux, on sait les choses en tenant compte de ce qui a été prévu, même si nous savons tous que les imprévus ne manquent jamais. Mais c'est contraire ce qui s'opère ici en RDC, où les imprévus surpassent même ce qui a été prévu. À l'exemple typique, voyons comment les voyages se créent de temps à autre dans ces institutions énumérées, juste dans le but de cacher leur détournement pour se faire remplir les poches. Quelqu'un qui vous amène avec lui une délégation de 120 personnes, sans compter les transports. Les frais d'émission de ces derniers, c'est coûter combien au trésor public? Le Congo n'est pas mort, tel que et même les autorités le disent, mais c'est bien elles qui n'aiment pas les Congo.
Professeur Maïndo, brève réaction.
Oui, je suis tout à fait en phase avec l'auditeur. C'est ce que j'avais dit tantôt. On est dans une logique où les autorités sont en train de vouloir alimenter leur clientèle et donc ne tiennent pas compte des prévisions budgétaires. On ne peut pas dépasser. Il y a des règles en matière de dépassement. On ne peut pas faire un dépassement de 300, 400.
Professeur Maïndo, vous êtes là? Je crois que on a perdu le professeur Maïndo. La réalisation va essayer de le rappeler très rapidement. Alors nous sommes à la fin de l'émission, professeur Florimond Mouteba. Quelles sont les recommandations que vous faites au gouvernement, par exemple, pour que l'exécution de la loi des finances 2022 tienne compte de ce qui a été prévu et éviter des dépassements budgétaires dans les institutions de la République?
Bon, je pense que la chose, donc les recommandations, nous avons fait pas mal de recommandations déjà dans le rapport, mais une des plus grandes recommandations, c'est que les contrôles, les différents, donc la fonction contrôle au sein de notre État puisse fonctionner correctement. Quand je dis contrôle, c'est pas seulement les contrôles parlementaires, c'est pas seulement les contrôles administratifs, c'est pas seulement les contrôles juridictionnels, mais aussi les contrôles citoyens. Mais au-delà de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances, il y a d'autres contrôles. L'autorité de régulation des marchés, la Direction générale des contrôles des marchés publics. Nous avons tous les contrôles sectoriels, dans les ministères sectoriels. Et je souhaite vraiment, en ce qui concerne le Parlement, le président de l'Assemblée provinciale est là, le professeur Boy, faites quelque chose pour que les contrôles parlementaires puisse devenir effectif par rapport aux dérives qu'il y a. Vous avez vu vous-même ce qui s'est passé avec la RAM. Comment vos collègues à l'Assemblée nationale ont dérivé, ont vraiment embrouillé complètement l'opinion nationale au lieu de sanctionner les ministres qui étaient là. Donc, vraiment, les contrôles doivent être absolument réhabilités.
Merci.
Et, bon, la question, je pense que ce que je demande à tout le monde, je regrette par exemple que le professeur Ngoï n'ait pas pu lire tous les rapports, parce que le rapport est tellement riche, il s'est cramponné à un débat qui, à mon avis, a déjà été tranché par le premier président de la Cour des comptes. Et donc, alors que j'aurais bien voulu l'entendre sur les autres aspects, donc de ces rapports, notamment la question de la justice distributive. Vous savez que la tension salariale, par exemple, dans notre pays, dans notre gouvernement, elle est de 90$ au plus bas à 25 000$. Que les salaires dans les cabinets sont de 800$ plus petits, 3 000$ les plus élevés. Et l'enseignant reste le personnel le moins payé avec un salaire moyen de 180$. Donc il y a un sérieux problème de justice distributive. J'aurais voulu l'entendre parler à sa double qualité de professeur et de passeur.
Merci.
Et là, donc la répartition des revenus des richesses se fait de manière très très injuste. Et donc voilà un peu pour la conclusion.
Merci, professeur.
Qu'on mette en avant la justice distributive et qu'on réhabilite les contrôles, tous les contrôles.
Merci, professeur Florimond Mouteba, professeur Godem Pouy. Votre conclusion en 30 secondes.
Je remercie tous les intervenants. J'apprécie le travail de l'ODEP. Mais je suis contre les mensonges scientifiques. Je l'ai dit avec beaucoup d'autorité qu'aucun texte en RDC n'érige en infraction en faute de gestion le dépassement budgétaire. S'il y a une autorité qui l'a dit, il doit relire le texte de la République. Et ce n'est pas le fait d'occuper les hautes fonctions qui fait de nous les plus intelligents de la République. Les textes sont clairs.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les dépassements?
Nous devons travailler pour la justice distributive. Je le fais, tout le monde sait que celui qui a commencé à faire arrêter les voleurs dans ce pays, c'est moi. Mais je suis contre les mensonges scientifiques. Donc, je suis tout
professeur
à fait d'accord
Godet
avec l'ODEP, mais pour le dépassement budgétaire, que celui qui vous dit que c'est une faute
Vous l'avez déjà dit, mais qu'est-ce qu'il faut pour éviter ce dépassement budgétaire? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Préalable, sur le plan scientifique, il faut d'abord stabiliser la monnaie.
Merci, voilà. Professeur Godem Pouy, professeur Alphonse Maïndo, vous avez été coupé tout à l'heure. J'imagine que c'est un problème de réseau. Alors, vous étiez en train de répondre à la réaction de l'auditeur.
Voilà, je disais que j'étais totalement en phase avec l'auditeur pour souligner effectivement que c'est que on est dans ce qu'il dit, ce que j'avais déjà dit au début de cette émission, en rappelant qu'en fait, nous sommes dans un régime qui est néo-patrimonial et donc dont les fondements c'est des clientélismes. Il faut donc entretenir tous les soutiens, tous les clients que l'on a politiquement pour garder les pouvoirs. Et tout ce qui peut vous empêcher de conserver les pouvoirs, alors il faut les mettre à l'aise en leur donnant de l'argent, en leur donnant des postes, en leur faisant des cadeaux de toutes sortes. Et maintenant, pour les autres secteurs, les autres institutions qui ne peuvent pas menacer le cœur des pouvoirs, on les oublie. Et c'est cela qu'on constate. L'éducation, la santé, l'agriculture sont des oubliés de ça. Il n'y a donc pas ce que disait le collègue Mouteba, il n'y a plus d'études distributives en ce moment-là. Donc c'est ce qu'il faudrait, et je pense, mais cela correspond aussi des dépassements, traduisent également une chose fondamentale. C'est quoi? C'est que il y a un manque de capacité de budgétisation dans nos institutions. Puisque on sait que la monnaie nationale est donc n'est pas très stable, les dépenses ici on le voit qu'elles sont en dollars quand on calcule, mais il y a toujours des dépassements. Ça signifie que soit les gens ne sont pas capables de faire un budget correct pour estimer les dépenses réelles, pour anticiper les missions et les restes, soit alors ils sont des mauvais foi et ils s'en foutent, ils s'émancipent des règles, ils sont donc des mauvais gestionnaires.
En conclusion.
À ce qu'on appelle le management public.
En conclusion, nous sommes à la fin de l'émission.
Oui, alors en conclusion, ce que je dirais, donc je salue encore une fois le travail très 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 méticuleux et d'ODEP. Il faut donc encourager ces gens à continuer à faire ce travail, mais il faut que les autorités s'approprient cela. Mais donc, il faut que les citoyens s'approprient également ces rapports pour pouvoir exiger, faire ce qu'on appelle le contrôle citoyen, parce qu'on a vu que le contrôle parlementaire a montré ses limites, on n'arrive pas à obtenir les résultats. Voilà ce que je pourrais dire en dernier mot.
Merci professeur Alphonse Maindo, dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Willem Lungamba qui était à la mise en onde. La réalisation était assurée par Guy Maté, présentation et coordination, Kéline Kouté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.